sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Chaque mois, découvrez des sujets passionnants qui vous guident sur le chemin de la guérison, de la transformation et de l'éveil.
Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie, par Fanny Frock, infirmière psy et coach holistique. Tous les mois à la pleine lune dès 7h.
Bonjour les belles âmes, bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast « Je peux pas, j'ai l'une » ayant pour terme aujourd'hui du cycle menstruel au cycle ovarien. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. En voyage dans les profondeurs du corps, et plus exactement, celle de la matrice. Pour ce 17e épisode, on se retrouve sous l'influence de la pleine lune en Poissons, ce signe très intuitif que j'affectionne particulièrement car il est mon signe lunaire. D'autres poissons ici à l'écoute ? Pour rappel, j'envoie deux fois par mois une lettre d'information avec un rituel à faire à chaque lune, avec d'autres informations sur le corps, la santé, l'entrepreneuriat vivant. Pour recevoir cette lettre d'info, je vous donne rendez-vous sur www.fannyfrock.com. Tout en bas de la page d'accueil, vous pourrez y inscrire votre mail et faire ainsi partie de la boucle. À présent, que nous réserve notre 17e épisode du cycle menstruel au cycle ovarien ? C'est un voyage, comme je le disais. Un voyage à la source de toute vie. À la source de toute vie humaine. Quel que soit notre sexe ou notre place sur cette terre. Et c'est pour cela que le sujet du cycle menstruel nous concerne toutes et tous, loin des débats politiques, économiques ou sociaux. Ce sujet ne devrait même pas être un combat féministe, mais plutôt un thème central dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises et dans tous les foyers. Sans cycle menstruel, pas de vie. Donc pas d'humain. Donc entre guillemets, hein, pas de politique ni d'économie d'ailleurs. Même si ces deux dernières ne sont pas une conséquence directe du cycle menstruel. Mais bref, tout ça pour rappeler que tous, politiques, citoyens, chanteurs, ouvriers, enfants, vieillards, nous avons tous débuté notre vie dans un utérus. Partant de ce constat que nos vies, incarnées dans ce corps et sur cette terre, ont pu se réaliser uniquement grâce au cycle menstruel, ouvrons ici ce sujet en précisant clairement qu'il est écoutable par toutes les oreilles, sans distinction de sexe ni même d'âge. Ceci étant dit, passons à présent au contenu de cet épisode. Dans un premier temps, je vous emmène, comme à mon habitude, dans l'anatomie et la physiologie de notre fabuleuse usine vivante qu'est notre corps. Que voulez-vous ? Impossible de mettre de côté mon métier d'infirmière. Ensuite, nous aborderons les aspects émotionnels du cycle menstruel, avec quelques aspects symboliques. Et enfin, je vous donnerai une clé essentielle, jamais vue ailleurs, ni dans les livres, ni dans les formations en ligne, qui promettent monts et merveilles, et que j'ai théorisée après mes 15 années d'exercice dans l'accompagnement à l'autre et la connaissance de soi. Pour commencer, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Celle-ci remonte à mes années de jeune collégienne. À cette période, j'ai eu la chance de lire la dernière version non censurée du journal d'Anne Frank. Tout aussi terrible qu'est ce témoignage de vie, cette jeune fille a pu écrire dans son journal une expérience très positive de la rencontre avec son sexe, sa vulve et son vagin. Elle y raconte la douceur et la chaleur de son intérieur. Aussi curieuse que Anne, je la suis dans son expérience. Mon doigt, ma main et mon être vivent des ressentis très positifs. Je scelle là, sans le savoir encore, avec mon sexe de jeune fille, un véritable lien d'amour et de fascination. C'est bien plus tard, et à l'âge adulte, que je réalise que cette tranche de vie a façonné ma sexualité, mon rapport avec mes partenaires et à la masturbation. Alors que je pensais ne rien savoir, j'ai remarqué que ce lien de confiance, créé à l'adolescence, avec mon vagin, avec mon sexe, m'a permis de passer bien au-delà de tous ces préjugés et croyances néfastes, des odeurs, des sécrétions, de la tonicité, ou encore du plaisir du sexe féminin et de ses soi-disant codes standardisés. C'est sans doute grâce à cette expérience que j'ai pu recueillir et être une bonne oreille pour de nombreuses femmes en quête d'une autre façon de vivre leur sexe, leur cycle et leur amour d'elles-mêmes, ainsi que des hommes en recherche de plus de compréhension de la vie. Comme à chaque fois que j'aborde le sujet du cycle, il m'est difficile de trouver le bon mot. Le terme « cycle menstruel » me convient que moyennement. Mais c'est ainsi qu'il est identifié et reconnu par une majorité d'oreilles. Il est vrai que pour faire plus court et plus simple, je pourrais vous dire que je vais parler des règles. Mais cela est beaucoup trop parcellaire. Déjà, sachez qu'une femme vit en moyenne 400 cycles dans sa vie. Prenons une première définition venant de Wikipédia. Le cycle menstruel est défini ainsi. Il est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant le plus souvent de façon périodique, et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs menstruel, hein, qui prépare l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Bon, cette définition réduit le cycle à juste la fécondation. Le Larousse, lui, parle de période comprise entre chaque début de règle, au cours de laquelle se succède un ensemble de phénomènes physiologiques et hormonaux, rendant possible l'ovulation, la rencontre des gamètes, la fécondation et la nidation de l'embryon au sein de la muqueuse utérine. Bon, cette définition-là, elle est carrément question de bébé, en omettant complètement l'être humain qu'il y a derrière, enfin plutôt l'humaine, on se croirait presque dans un laboratoire. Bon, voyons ensemble comment nous pouvons comprendre plus largement le cycle menstruel, que je vais d'ailleurs renommer ainsi, le cycle ovarien. Pourquoi le cycle ovarien ? Eh bien tout simplement pour amener un peu plus de neutralité, pour ne pas figer le cycle menstruel aux règles et à la fécondation, et donc pour avoir une vision plus large. Vous allez comprendre avec la suite de l'épisode pourquoi. Nous pensons toutes et tous que le cycle ovarien se déroule essentiellement dans les organes reproductibles de la femme, à savoir les ovaires et les trompes, l'utérus et son col, ainsi que le vagin et la vulve. Tout ceci, ça compose ce que j'appelle la matrice. Voilà, mais le cycle ovarien ne se passe pas uniquement dans la matrice. Le cycle ovarien se déroule aussi dans le cerveau, et même d'abord dans le cerveau. En effet, ce dernier est indispensable à l'existence du cycle et aux variations hormonales qui arrivent chaque mois en vague. C'est pour cela que nous pouvons tout à fait parler d'intelligence hormonale et d'intelligence ovarienne. Cerveau et matrice fonctionnent comme un merveilleux couple qui danse la vie à un rythme allant d'une vingtaine de jours jusqu'à 30 jours, selon les femmes, selon les cycles. Alors ce cerveau, parlons-en justement. Savez-vous que le cerveau de l'homme est environ 9% plus gros que celui de la femme ? Pour autant, cela ne fait pas de la femme un être moins intelligent. Il faut savoir que, quel que soit le sexe, il y a autant de cellules cérébrales chez tous les cerveaux. La différence est simplement une histoire de densité. Les cellules à l'intérieur de la boîte crânienne chez la femme sont plus rapprochées. La différence des cerveaux est bien ailleurs. Elle est dans la chimie. Autrement dit, dans l'effet neurologique des hormones. Et ces dernières influencent beaucoup plus la vie des femmes que ce qu'on ne pense. Elles ont des effets considérables aux différentes étapes de la vie de la femme, tant sur les désirs, les valeurs et même les perceptions de la réalité. Pour les plus curieuses et curieux, je vous invite à lire l'ouvrage du docteur Louane Brizandine qui s'appelle « Les secrets du cerveau féminin » et qui a créé la Woman's Mood and Hormone Clinic en 1994 à San Francisco. Cette dernière met entre autres en lumière le fait que, je cite, « jusqu'à l'âge de 8 semaines, le cerveau de tous les fœtus a l'apparence d'un cerveau féminin. La nature le programme en quelque sorte féminin par défaut. Et c'est à partir de la 8e semaine que le cerveau va « choisir » entre guillemets son fonctionnement. Son sexe, si on peut dire ça comme ça. Soit rien ne se passe et le développement du cerveau se poursuit, et donc c'est un cerveau féminin, soit il va y avoir un afflux de testostérone dans ce cerveau de 8 semaines qui, je cite encore, va anéantir certaines cellules des centres de la communication et augmenter le nombre de cellules des centres de la sexualité et de l'agressivité. Quoi qu'il se passe à cette 8e semaine, cette bifurcation hormonale va par la suite influencer notre aisance ou non à s'exprimer, le traitement des émotions, notre façon de voir et d'aborder le monde. Au cœur du cerveau féminin, deux structures neuronales entrent surtout en jeu. Ce sont l'hypothalamus et l'hypophyse qui régissent les sécrétions des hormones de la fertilité, de la grossesse, la naissance, de l'allaitement. Et ils attisent également le fonctionnement des organes sexuels féminins. Les hormones. Mais quelles sont-elles ? Quelles sont ces hormones qui participent au cycle ovarien et agissent sur le cerveau de la femme ? Je suis sûre que vous en connaissez déjà une partie. En voici déjà cinq bien connues. L'œstrogène, disons la reine, la séductrice, celle qui rend féminine et forme les courbes du corps. Elle est au pic de sa sécrétion au moment de l'ovulation. Et elle est l'amie des hormones du bien-être. Nous avons ensuite la progestérone, disons la petite sœur de l'œstrogène. Elle est beaucoup plus discrète et elle a son pic après l'ovulation. Elle va compliquer le passage des spermatozoïdes et inverse le rôle de l'œstrogène. La testostérone, la rapide, l'agressive, elle est cousine de l'œstrogène. Elle est celle qui soutient le bon fonctionnement de l'appareil sexuel. La FSH, ou l'hormone folliculostimulante, qui elle est responsable de la maturité du follicule dans l'œuf. La LH, ou l'hormone lutéinisante, qui est celle qui gouverne l'ovulation. Sans elle, pas de libération d'ovules dans l'ovaire. Bon, j'en suis sûre que ces termes vous rappellent vos cours de biologie au collège. Et une petite dernière pour la route, qui est peut-être un peu moins connue. La GnRH, ou l'hormone libératrice de gonadotrophine. Et pourtant, elle n'est pas à oublier, puisque c'est tout de même elle qui est comme le metteur en scène qui ordonne les entrées et les sorties des hormones et sert d'intermédiaire entre le cerveau et les ovaires. Les trois premières, donc c'est-à-dire œstrogène, progestérone et testostérone, sont sécrétées au sein des ovaires, alors que les trois dernières, FSH, LH, GnRH, sont sécrétées, elles, par l'hypophyse et l'hypothalamus. Mais il y a encore d'autres hormones qui entrent dans la danse du cycle ovarien. Même si au premier abord, on n'y pense pas de façon commune. Il y a donc l'oxytocine, on pourrait l'appeler la bonne fée, celle qui aime les câlins et la tendresse. Elle est l'hormone de l'amour et du lien de l'attachement. Le cortisol, celui-ci je vous en ai déjà parlé dans les épisodes sur l'auto-guérison, le 14, 15 et 16e épisode. Le cortisol, c'est le stress, celui qui met à cran. Il y a aussi la vasopressine, elle est sœur de la testostérone et de l'oxytocine. La DHEA, qui est l'hormone mère, notamment de la testostérone et des œstrogènes. L'androsténédione, elle, c'est carrément l'effrontée. Elle est très présente dans la jeunesse et diminue avec la ménopause. Et enfin, l'allopregnanolone, qui est la modératrice. Sans elle, nous sommes stressés. Et son départ indique du coup l'entrée dans la phase prémenstruelle, juste avant les règles. Toutes ces hormones que je viens de vous citer sont sécrétées au niveau du cerveau, excepté l'androsténédione qui, elle, l'est au sein des ovaires. L'ensemble de ces hormones régissent le rythme du cycle ovarien, allant de la maturation d'une ovule à son expulsion, jusqu'à l'évacuation de l'endomètre ou l'entrée dans le cycle de la maternité. Certaines vont freiner une partie des activités ovariennes, d'autres les activent. Mais dans tous les cas, toutes orientent les comportements de la femme en fonction de ses phases de vie, allant de la puberté à la périménopause, ménopause et post-ménopause, en passant par la vie du couple, le célibat, la maturité sexuelle et la masturbation, la grossesse et l'éducation des enfants s'il y en a. Vu comme cela, vous pourrez penser que nous, femmes dotées d'une matrice, sommes fatalement gouvernées par nos hormones et que nous subissons les vagues des unes des autres sans que nous ayons notre mot à dire. Tantôt, complètement dans la séduction, tantôt complètement repliée. Pourtant, même si hormones et émotions sont très en lien, et là aussi je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 11 sur les peurs et l'épisode 15 sur l'auto-guérison et la conscience, nous pouvons choisir de nous faire embarquer par les émotions ou simplement les regarder passer comme des nuages dans notre ciel intérieur. Toutes ces hormones, toutes celles que je vous ai citées plus haut, ne font pas leur entrée en même temps. Et bien heureusement, imaginez le cohu-bohu sinon. Chaque hormone arrive à un moment donné et pour une fonction bien précise. Pour bien comprendre, il y a deux façons pour envisager le cycle. La première, c'est plutôt celle que nous avons vue en bio, au collège. Et on va diviser le cycle ovarien en deux parties. D'abord de J1 à J14 pour la première partie, puis de J15 à J28 pour la deuxième partie. Alors je fais une petite parenthèse, le chiffre de 28 jours, c'est bien un chiffre théorique. Le cycle menstruel ne dure pas toujours 28 jours, c'est une moyenne qui a été calculée. Voilà, ce n'est pas la réalité de toutes les femmes menstruées, sachant que dans la vie d'une femme, le cycle peut osciller selon les périodes de vie, les passages de vie, etc. Avec ce découpage donc en deux parties du cycle, nous pouvons constater que certaines hormones, que sont la LH et la progestérone, sont quasi absentes au début, et les œstrogènes et la FSH sont beaucoup plus hautes dans la première phase. Au moment de l'ovulation, c'est-à-dire théoriquement autour du 14e jour, on a œstrogènes, LH et FSH qui vont atteindre leur pic, puis redescendre et elles vont laisser la place à la progestérone. Voilà, on remarque déjà une jolie danse des hormones. Quand on connaît chacune des fonctions de ces hormones-là, on peut aisément percevoir que les émotions de bien-être, de confiance en soi, de facilité de communication et de relation sont beaucoup plus probables avant et pendant la phase ovulatoire. Et qu'après, le stress peut arriver, le ralentissement et la réflexion vers l'intérieur sont plus de mise dans la deuxième partie. On peut aussi envisager la lecture du cycle ovarien en le divisant en quatre phases. C'est la deuxième façon de lire le cycle. Elle est souvent présentée dans les articles qui présentent la psychologie du cycle et les sujets autour du féminin sacré. Le repère de départ est toujours le premier jour des règles. Voilà, le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Cette première phase est donc appelée la phase menstruelle, celle qui est autour des règles, 2 à 3 jours avant, pendant les règles et 1 à 2 jours après, environ. Dans cette phase, la tendance va être plutôt au repli sur soi. C'est un peu la période hivernale, là où la marmotte recharge ses batteries. Et également le moment où les muscles du corps, notamment ceux des abdominaux et du périnée, sont beaucoup plus laxes, afin que l'endomètre puisse s'écouler aisément. La deuxième phase, celle qu'on appelle la phase pré-ovulatoire, c'est-à-dire la période entre les menstrues et l'ovulation. C'est la période printanière. Durant cette phase, les hormones et le corps de la femme favorisent une communication plus aisée, un plus grand dynamisme, un plus grand appétit aussi, et un périmètre de marche qui va s'agrandir jusqu'à pendant la phase 3. À ce moment, la femme peut tirer profit de cette énergie haute pour faire tout ce qui lui est difficile justement et tout ce qui lui coûte habituellement. La troisième phase, c'est la phase ovulatoire. Elle est semblable à l'été. C'est la phase du rayonnement. Elle a lieu les 2 ou 3 jours avant l'ovulation, pendant l'ovulation. Entre parenthèses, hein, l'ovulation, elle dure l'espace de quelques instants, de quelques minutes. C'est juste le temps où l'ovule est expulsé de l'ovaire. Et puis 1 à 2 jours en post-ovulation. Cette phase peut être à la fois agréable, mais sachez aussi que la phase ovulatoire peut être désagréable. Pourquoi ? Eh bien parce que certaines femmes peuvent se sentir douloureuses ou plus sensibles. En effet, l'ovulation provoque physiologiquement une tension et un gonflement de l'ovaire, donc l'ovaire qui va expulser l'ovule, et des tissus qui l'entourent. La tension dans cet ovaire va aller jusqu'à ce que les tissus se rompent et que le follicule se rompt pour faire sortir l'ovule. Il va donc y avoir une plaie en interne associée à une inflammation, et ça jusqu'à ce que l'ovaire se cicatrise. Il est donc tout à fait normal que pendant la phase ovulatoire, la femme se sente douloureuse dans le petit bassin et dans les plis de laine. Il est donc important de bien s'hydrater et de respirer durant cette phase. Les automassages, la marche et toute activité corporelle douce pourront vraiment réduire l'inflammation et les sensations douloureuses associées. Parfois, cette période peut être agréable, car nous pouvons nous sortir portés par les hormones de bien-être, se sentir vraiment très dynamique et même très très à l'aise dans notre peau. Attention tout de même de ne pas se sentir trop à l'aise, trop à son aise, et de regretter plus tard ce qu'on a pu dire de façon un peu brusque. J'ai tendance à dire que les discussions sensibles avec notre mère ou notre meilleure amie ont tout intérêt à être reportées après l'ovulation. C'est pour cela que pendant cette période, une auto-observation douce à son égard ou de la méditation pleine présence pourront vraiment réguler cette tendance à être grande séductrice et grande bavarde. Et enfin, la quatrième phase, appelée la phase prémenstruelle, souvent la plus redoutée, hein, mais sachez vraiment qu'elle n'est pas la plus difficile à vivre. Si elle est difficile à vivre, c'est justement un signe que la lecture du cycle ovarien n'est pas encore acquise, que vous ne faites pas corps avec votre cycle, que vous n'êtes pas complice. Il y a 6 ans, j'ai créé mon premier stage intitulé « Cycle complice ». Afin de transmettre aux femmes ce beau rythme féminin et l'apprivoiser pour ne plus le subir, mais plutôt vivre et danser avec. Le terme « complice » n'a pas été choisi par hasard, et j'ai voulu, dès ce premier stage, soutenir les femmes, justement, dans cette fameuse quatrième phase tant décriée, tant critiquée. La phase prémenstruelle est ce moment où les œstrogènes chutent et où la progestérone et le cortisol augmentent dans le corps de la femme. Ça entraîne du coup du stress, de l'hypersensibilité, une tendance au refermement sur soi et à l'irritabilité. Pourtant, cette phase est assez extraordinaire puisqu'elle nous permet de lâcher complètement prise, autant mentalement que physiquement. C'est comme l'automne, c'est comme les feuilles qui tombent. Et d'ouvrir également grand son canal aux intuitions. C'est la période où l'inspiration est la plus grande. Je vous invite d'ailleurs vivement, lorsque vous vivez cette phase et que vous vous promenez, à sortir avec votre carnet ou votre bloc-notes pour y inscrire toutes les idées et inspirations qui vous viennent spontanément. Dans la littérature, en psychologie ou en symbolique, on trouve pour chaque phase du cycle un archétype. Alors un archétype, qu'est-ce que c'est ? C'est une image, une figure, un thème universel. Il est présent dans toutes les grandes mythologies. Archétype vient du grec archétupon, qui signifie modèle primitif. Dans le cycle ovarien, on trouve 4 archétypes. Et dans l'ordre, vous avez donc la sorcière ou l'enchanteresse, pour la première phase, phase menstruelle. Pour la deuxième phase, la jeune fille, la vierge ou la princesse. Puis ensuite, troisième phase, la femme, la mère ou la reine. Et enfin, la dernière phase, la vieille femme, la fée, celle qui voit et celle qui sait. Dans les mouvements New Age ou féminin sacré un peu de surface, les archétypes sont parfois trop simplifiés dans leurs explications et en perdent ainsi tout leur sens. Ils mériteraient à eux seuls un épisode de podcast complet. Mais retenez ici essentiellement qu'ils sont surtout là pour vous donner une indication, disons préventive, de votre ciel intérieur. L'archétype est bien une notion admise par le général et non le particulier. Vous ne devenez pas la figure archétypale liée à la phase du cycle. Donc ne les utilisez pas non plus pour justifier un comportement ou une émotion, mais plutôt tirez-en profit pour anticiper vos journées. Un peu comme quand le matin, on met son nez dehors pour savoir quels vêtements porter en adéquation avec la météo du moment. Et justement, en parlant de météo, appuyons-nous sur la nature pour lire sainement le cycle ovarien et vivre fluidement avec celui-ci lorsqu'on en a un. Dans la nature, rien n'est tranchant. L'été n'arrive pas brutalement après l'hiver, de même que les floraisons ne sont pas brusquement là après l'hiver, ou encore le papillon ne sort pas tout d'un coup de son cocon. Dans notre réalité, à l'état naturel, les choses arrivent par étapes, de façon progressive. Après l'apogée de l'été, la température va diminuer, le jour également va diminuer, et l'automne, doucement, va faire rougir et jaunir notre paysage arboré. C'est progressif. Et il en est de même pour le cycle ovarien. Nous passons d'une phase à l'autre progressivement. Et ce mot-là, c'est une clé précieuse. Pourquoi ? Car nous pouvons observer chaque jour et sentir chaque jour les choses se modifier doucement en nous et donc ainsi agir pour notre plus grand bien-être. Comme la compréhension et l'autonomie me sont importantes, j'aime créer des outils simples et faciles à retenir. Ici, je vous offre donc un outil. Voyez le cycle ovarien comme un coquelicot. Cette belle fleur rouge est le symbole parfait pour parler, comprendre et visualiser son cycle. Le coquelicot comporte 4 pétales, comme les 4 phases du cycle. Et si l'on dessine les pétales, on repère bien qu'il y a une ligne qui monte, le sommet, puis une ligne qui descend. Et voici la première pétale de dessinée. Cette première pétale symbolise l'entrée, la pleine période et la sortie de la première phase. Et cette pétale fusionne avec le cœur du coquelicot, et il en est ainsi pour les 3 autres pétales. Voyez ce cœur du coquelicot comme la 5e phase. Voilà une autre clé que je vous offre. La phase où notre être se recalibre, se recentre, avant d'entrer dans la phase suivante. Pour bien comprendre, amusez-vous à observer les 4 saisons. Et voyez comment, entre chaque saison, il y a une intervalle saisonnière. Cette dernière intervalle correspond à l'élémentaire, un des 5 éléments présents dans la philosophie taoïste. Cet intervalle est un ancrage à la terre. À l'instant, comme une courte période, une brève expire afin de repartir pleinement dans l'énergie de la saison suivante. En vivant le cycle ovarien de la sorte, non pas avec 4 phases distinctes, mais bien 5 phases où entre chacune d'entre elles vous avez une pause d'ancrage, vous subirez beaucoup moins votre cycle, mais vous le vivrez de façon complice. Le choix de la symbolique du coquelicot, avec ses 4 pétales pour les 4 phases et son cœur noir pour la 5e phase, n'est pas hasardeux pour moi. Je l'ai aussi choisi, en plus de sa couleur, pour l'aspect résilient et autonome. Cette fleur pousse partout et se ressème toute seule. Elle est donc symbole de vie et de fertilité. Impeccable pour parler du cycle ovarien. Le coquelicot représente aussi la fragilité et la délicatesse. Et c'est bien ce qu'il en est pour le cycle. Car aussi puissant qu'il soit, il est à l'origine de toute vie, je rappelle, il est aussi très sensible. Un stress, une fatigue, une bouffée d'amour, et voilà tout l'orchestre hormonal qui se décale. Enfin, le coquelicot est le symbole de la vie, de la plénitude et du bonheur. Le coquelicot ne sait que soigner et apaiser. N'est-ce pas merveilleux de se relier au cycle ovarien de la sorte ? Car en s'y reliant, on soigne et on apaise en soi et autour de soi. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver sur mon site web un joli document à télécharger qui résume cet épisode et qui vous propose différents outils afin de suivre son cycle menstruel et le lire, dont un joli coquelicot menstruel à remplir pour soutenir l'auto-observation et mieux se comprendre et se connaître. Vous pourrez aussi trouver dans ce document une introduction à la contraception naturelle féminine. Et pour aller plus loin dans l'écoute du cycle ovarien et des cycles universels qui y sont liés, tels que les saisons et les lunes, je vous donne rendez-vous en octobre lors du séminaire Gardienne de Cercle qui a lieu à Teillac, dans le Morbihan. Ne tardez pas pour vous inscrire, il ne reste que quelques places. Un prochain séminaire aura lieu l'année prochaine pour les hommes désireux de devenir gardiens de cercle. Et enfin, accessible pour toutes et tous, j'ai l'honneur de vous annoncer en avant-première une magnifique formation que j'ai nommée « Le ventre sacré » et qui va sortir au printemps 2023. Pour retrouver tout cela, rendez-vous sur www.fannyfrog.com. et utiliser la seule voie d'information actualisée chaque mois, c'est-à-dire la lettre d'information. Pour cela, inscrivez-vous, rendez-vous en bas de page de la page d'accueil. Vous pouvez aussi tout à fait m'envoyer un mail à contact@fannyfrog.com. En attendant de vous retrouver en ligne et de plonger dans la formidable lecture du cycle ovarien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour le faire vivre, abonnez-vous, likez et partagez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. On se dit à tout bientôt, ici ou sur les réseaux.